Chapitre 32. J'ai fermé les yeux et j'ai mis les mains dessus. Et j'ai tâché d'oublier le présent dans le passé. Tandis que je rêve, les souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse me reviennent un à un, doux, calmes, riants, comme des îles de fleurs sur ce gouffre de pensées noires et confuses qui tourbillonnent dans mon cerveau. Je me revois enfant, écolier rieur effrayé, jouant, courant, criant avec mes frères dans la grande allée verte de ce jardin sauvage où ont coulé mes premières années, ancien enclos de religieuses que domine de sa tête de plomb le sombre dôme du Val-de-Grâce. Et puis, 4 ans plus tard, m'y voilà encore, toujours enfant, mais déjà rêveur et passionné. Il y a une jeune fille dans le solitaire jardin. La petite Espagnole, avec ses grands yeux et ses grands cheveux, sa peau brune et dorée, ses lèvres rouges et ses joues roses, l'Andalouse de 14 ans, Pepa. Nos mères nous ont dit d'aller courir ensemble. Nous sommes venus nous promener. On nous a dit de jouer, et nous causons, enfants du même âge, non du même sexe. Pourtant, il n'y a encore qu'un an, nous courions, nous luttions ensemble. Je disputais à Pepa la plus belle pomme du pommier. Je la frappais pour un nid d'oiseau, elle pleurait, et je disais, c'est bien fait. Et nous allions tous deux nous plaindre à nos mères, qui nous donnaient tort tout haut et raison tout bas. Maintenant, elle s'appuie sur mon bras, et je suis fort fière et tout émue. Nous marchons lentement, nous parlons bas. Elle laisse tomber son mouchoir, je lui ramasse. Nos mains tremblent en se touchant. Elle me parle des petits oiseaux, de l'étoile qu'on voit là-bas, du couchant vermeil derrière les arbres, ou bien de ses amis de pension, de sa robe et de ses rubans. Nous disons des choses innocentes et nous rugissons tous les deux. La petite fille est devenue jeune fille. Ce soir-là, c'était un soir d'été. Nous étions sous les marronniers, au fond du jardin. Après un long silence qui remplissait nos promenades, elle quitta tout à coup mon bras et me dit « Courons !» Je la vois encore. Elle était tout en noir en deuil de sa grand-mère. Il lui passa par la tête une idée d'enfant. Pepa redevint Pepita. Elle me dit « Courons !» Et elle se mit à courir devant moi avec sa taille fine comme le corset d'une abeille et ses petits pieds qui relevaient sa robe jusqu'à mi-jambe. Je la poursuivis. Elle fouillait. Le vent de sa course soulevait par moments sa pèlerine noire et me laissait voir son dos brun et frais. J'étais hors de moi. Je l'atteignis près du vieux puissard en ruine. Je la pris par la ceinture, du droit de victoire, et je la fis asseoir sur le banc de gazon. Elle ne résista pas. Elle était essoufflée et riait. Moi, j'étais sérieux et je regardais ses prunelles noires à travers ses cils noirs. « Asseyez-vous là, » me dit-elle. « Il fait encore grand jour. Lisons quelque chose. Avez-vous un livre ?» J'avais sur moi le tome second des voyages de Spallanzani. J'ouvris au hasard et je me rapprochai d'elle. Elle appuya son épaule à mon épaule et nous nous mîmes à lire, chacun de notre côté, tout bas, la même page. Avant de tourner le feuillet, elle était toujours obligée de m'attendre. Mon esprit allait moins vite que le sien. « Avez-vous fini ?» me disait-elle, que j'avais à peine commencé. Cependant, nos têtes se touchaient, nos cheveux se mêlaient, nos haleines peu à peu se rapprochaient, et nos bouches tout à coup. Quand nous voulûmes continuer notre lecture, le ciel était étoilé. « Oh, maman, maman !» dit-elle en rentrant. « Si tu savais comme nous avons couru ?» Moi, je gardais le silence. « Tu ne dis rien ?» dit ma mère. « Tu as l'air triste. » J'avais le paradis dans le cœur. C'était une soirée que je me rappellerai toute ma vie, toute ma vie.